Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide les lundis à 13h et le dimanche à 17h sur Radio Cité Genève.
Bonjour chers auditeurs, vous êtes sur Radio Cité et c'est maintenant l'émission Nectar. Nous nous sommes déplacés à Hermance où nous rencontrons un vigneron, personnage assez haut en couleur, qui est Raphaël Pieux du domaine des Divins. Alors au passage, il faut que je vous parle de ce livre que j'ai beaucoup apprécié, qui s'appelle « Vin, vin ». Donc V-I-N-G-T-V-I-N-S, voilà, qui n'établit pas un classement des Genevois, mais qui met en avant certains domaines dont les maîtres sont des personnages plutôt haut en couleur en général. Alors j'avais l'embarras du choix avec ce petit livre, et puis je ne vous cache pas que c'est ma femme qui m'a ordonné d'aller voir Monsieur Raphaël Pieux, parce qu'elle a regardé les photos, c'est à ça qu'elle s'attache, et puis elle m'a dit, tiens, il a l'air extrêmement sympathique, il faut que tu ailles le rencontrer. Donc séduction à distance, voilà, vous avez une responsabilité. Alors bonjour Monsieur Pieux, je crois que nous allons commencer par sortir du sujet, parce que quand j'ai regardé sur Internet, j'ai vu que vous étiez l'homme à l'accordéon.
Alors effectivement, je l'ai été pendant de nombreuses années, parce que je suis un amoureux de musique et de culture en général, mais de musique plus particulièrement. Et puis, l'accordéon a été un fidèle compagnon pendant des années. Il m'a permis de beaucoup voyager, de découvrir énormément de vignobles aussi. Et là, j'ai raccroché momentanément les bretelles, si on peut dire, pour quelques temps. Aussi parce que voilà, je l'ai beaucoup fait, que je suis jeune papa à présent, depuis 2 ans et demi. Et que la musique, comme toute passion, me prenait beaucoup de temps, surtout le soir. Et que ces soirées, j'ai envie de les passer avec ma fille et ma femme.
Voilà. Ce qu'on ne saurait critiquer. Mais tout de même, vous êtes auteur-compositeur.
Oui, bah j'ai toujours été assez autodidacte dans ce que je fais. J'ai forcément qu'il y a toujours des gens qui m'impressionnent, qui m'influencent, qui me font rêver et auxquels j'ai envie de ressembler. Mais je me suis aussi toujours fait à l'idée que on n'arrive jamais à donner une copie conforme des choses. Les Japonais peut-être savent très bien le faire dans leur maniaquerie, mais en tout cas, moi, j'ai pas cette culture-là, donc c'est toujours une forme de traduction, et de synthèse de tout un tas de choses. Quand on est impressionné par quelque chose, on a envie de le faire, et finalement, on le fait à notre sauce, à notre manière. Et c'est là que d'une certaine manière, ça se personnifie et qu'il y a quelque chose de nouveau, parce que sinon, ben, on ferait que imiter ou jouer des grands artistes sans pouvoir amener du renouveau, du métissage et une forme d'évolution.
Voilà, donc je crois comprendre que vous n'êtes pas issu d'un conservatoire, mais tout de même, je lis que vous avez donné un millier de concerts dans 40 pays, ouais. Ce qui est quand même... mais je ne sais pas, qu'est-ce qu'elles deviennent vos vignes pendant ce temps ?
Bon, lorsque je n'avais pas encore d'enfants... j'étais aussi plus jeune, je dormais en moyenne 4 à 5 heures par nuit parce que la vigne a toujours été très sollicitante, donc je pouvais pas diminuer mes heures à la vigne ou au champ. En revanche, je prenais où je pouvais prendre, c'est-à-dire sur des heures de sommeil, chose qui a assez bien fonctionné dans la vingtaine et jusqu'au début de la trentaine. Et puis après, on se rend compte aussi qu'on a besoin de... qu'il ne suffit pas uniquement de bien boire et de bien manger, mais il faut aussi bien dormir pour pouvoir affronter les défis de la vie. Donc la musique était une activité très nocturne et très ponctuelle aussi, c'était les week-ends, donc je faisais des grosses journées au champ la semaine, après je jouais un peu le soir jusqu'à ce que je tombe de fatigue, et puis je partais en tournée le week-end. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de faire tous ces voyages en 15 ans, d'environ 1500 concerts et dans une quarantaine de pays.
Voilà, ça me trouble parce que je m'occupe aussi à titre personnel par ailleurs de musique, mais est-ce que vous n'avez pas un agent pour ces tournées ? Je connais tellement d'artistes qui cherchent des concerts, et dans ces concerts, il faut les trouver.
Alors, nous, on a tout fait nous-mêmes sur la fin. Sur les trois dernières années, on avait des agents dans différents pays. Mais les 12 premières, on a vraiment géré absolument tout. Et finalement, ça nous a permis de tisser énormément de contacts. On a pris des agents sur la fin en espérant que ça nous allège un petit peu le travail. Mais finalement, quand on gère un groupe musical de 7 personnes, on doit de toute manière gérer les discussions internes qui prennent beaucoup de temps. L'avantage des agents, c'est qu'ils nous ont permis d'avoir des contacts qu'on n'avait pas et qu'eux avaient. Et ça a forcément rajouté quelques concerts à la liste.
Voilà, ben on va quand même en venir gentiment au sujet qui nous occupe, c'est-à-dire la défense et illustration des vins genevois, et en particulier aujourd'hui de vins d'Hermance. J'ai aussi lu que au cours de ces tournées, vous avez rencontré des vignerons. Je pense que vous avez discuté de leur méthode, peut-être de leur cépage, etc. Qu'avez-vous appris durant ces tournées en la matière ?
Voilà, alors j'ai appris plein de choses, mais la première des choses, c'est que il y a des belles choses partout. Partout où se cultive la vigne, il y a des vins magnifiques, il y a des personnes magnifiques qui accompagnent ces terroirs. Après,
alors là, je tiens mon micro, mais donc je ne peux pas applaudir, mais j'applaudis quand même vivement à l'idée qu'il y a des bons vins partout et d'excellents vignerons qui ont du talent un peu partout.
Parce que après, ce qui va différer, ben c'est déjà le fait qu'on ait des goûts différents. Donc il y a des régions qui vont peut-être moins me toucher dans leur approche du raisin et de la vigne et du vin, mais il n'en reste pas moins que j'ai été ému par des vins absolument partout où je suis allé. Après, c'est dans des proportions peut-être différentes. Il y a des lieux, des types de vins qui me touchent plus, mais ça correspond aussi peut-être à une étape de ma vie. Et puis, parce que les goûts évoluent. Je ne bois pas les mêmes vins aujourd'hui que ceux que je buvais à 15 ans.
Voilà, donc pas de hiérarchie et vive les goûts individuels.
Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève.
Vous êtes toujours sur Radio Cité, donc vous avez fait le bon choix, et vous êtes toujours en présence de Raphaël Pieux, qui est vigneron et patron du domaine des Divins à Hermance. Voilà. Nous évoquions à l'instant les tournées que vous avez faites, et on entre encore un peu plus dans le cœur du sujet. Est-ce que de tous ces pays que vous avez visités, vous avez ramené des cépages ?
Alors, j'ai indéniablement ramené des cépages, parce qu'actuellement, mon domaine compte 65 cépages, je me suis promis de m'arrêter à 100, mais peut-être que ça débordera un petit peu. Ce qui est assez atypique pour un vigneron indépendant, ce qui est moins pour une station de recherche, donc j'estime être peut-être à mi-chemin entre les deux. C'est tous des cépages anciens ou plus récents que je suis allé trouver dans des conservatoires, chez des pépiniéristes, chez des vignerons, en Europe, principalement en Europe. Et c'est des cépages qui ont la particularité de présenter des résistances plus fortes aux maladies, aux principales maladies de la vigne, à savoir les champignons, mildiou, oïdium, botrytis. Et où ça m'intéresse beaucoup, c'est que j'ai toujours eu une approche et une dynamique dans l'agriculture qui est de chercher les méthodes les plus écologiques possibles. Seulement, voilà, parfois, le fait de travailler, que ce soit en bio, en biodynamie, etc., on n'arrive pas toujours aux formats les plus écologiques si le matériel végétal est trop sensible. Et c'est un peu ce qui me chagrine dans les variétés classiques, on va dire, c'est qu'elles présentent des grandes sensibilités à ces maladies. Et du coup, d'un point de vue écologique, je m'y retrouvais pas forcément. Donc j'applique, en somme, au vignoble, ce qu'on a fait déjà avec les potagers de Gaïa depuis de nombreuses années. Dans un potager, c'est toujours plus facile de changer de variété parce que c'est des cultures annuelles ou bisannuelles. Donc dès qu'une ne fonctionne pas ou n'est pas adaptée, on peut en changer rapidement. Tandis qu'à la vigne, ben voilà, une vigne prend 4 à 5 ans avant de produire du raisin. En général, on la plante pour 25-30 ans. C'est souvent un crève-cœur d'arracher une parcelle parce que ça peut être le père ou le grand-père même qui l'a planté. Donc c'est toujours une action lourde de sens. Et puis il y a le coût, tout bêtement, c'est que ça représente des coûts conséquents. Mais maintenant, c'est plus de la moitié du vignoble, près de 60%, qui est constitué de ces cépages résistants, qui pour la plupart sont très rares. La majorité d'entre eux, je suis le seul à les cultiver en Suisse pour le moment. Et ça me permet d'enrichir encore plus ma rencontre avec la vigne et le vin, parce que je suis plus dans un monde de comparaison. Par exemple, si supposons avec un Sauvignon ou un Chardonnay, le Chardonnay, c'est le cépage le plus cultivé au monde, et il y a des standards d'excellence qui sont un peu définis dans les types. Et j'aime bien l'idée de me retrouver un peu au pied du mur avec ces cépages, à avoir le champ libre, à les découvrir, d'une certaine manière, à trouver des chemins avec eux.
Oui, j'aimerais savoir, dans ces cépages que vous introduisez à Genève, dans votre domaine, est-ce qu'il y en a qui ne se plaisent pas ?
Alors, c'est, je dirais, là, les plus vieux, je les ai plantés il y a 7 ans. Donc, j'ai encore peu de recul dessus. Et puis, il y a un adage qui dit qu'il n'y a pas de mauvais cépage. Il peut y avoir éventuellement un mauvais vigneron. Donc, j'ose espérer que ceux avec lesquels je ne trouve pas de chemin d'un point de vue organoleptique, donc au niveau gustatif, c'est un chemin que je vais trouver probablement ces prochaines années. Parfois, il faut s'armer de patience, même avec les cépages classiques. J'ai eu une accointance évidente avec le Merlot dès mes débuts, et puis il y a un autre cépage comme le Doral où les premières années j'en étais pas forcément content, et c'est une rencontre aussi, donc c'est une amitié qui se cultive parfois.
Voilà, donc vous les apprivoisez, et peut-être que c'est au moment de la vinification que vous devez, je veux pas dire corriger le tir, mais avoir la sensibilité qui permet de mettre le génie du cépage en évidence.
C'est ça l'idée. Pour moi, un vin se fait indéniablement à la vigne. Ça, c'est un principe. Et puis, on accompagne en cave. Mais la matière première doit être magnifique et doit être faite à la vigne. Après, ce que je peux constater, c'est qu'il y a certains cépages à la vigne qui vont demander un soin particulier plus que d'autres, qui vont peut-être prendre un peu plus de temps pour avoir des expressions de terroir, de sol, que d'autres. Et là, de nouveau, c'est toujours l'idée d'être extrêmement attentif et d'apprendre de chaque mouvement de la plante, parce que finalement, les vignes, ils nous racontent tout, il faut juste tendre l'oreille. Et des fois, on comprend pas tout.
Voilà, comme on dit des fois, la nature, on peut la commander que si on lui obéit. Je pense que c'est un petit peu dans votre philosophie. Je vous pose une question stupide, mais on m'a dit une fois que les questions les plus stupides sont radiophoniquement les meilleures. Est-ce que ça ne vous pose pas, ces cépages nouveaux, un problème d'appellation, hein? Je fais allusion par exemple à la Bourgogne, où c'est pour les rouges Pinot Noir point barre ou Chardonnay point barre, ou bien le fait que on peut pas produire un Bordeaux si on y plante du Gamay, etc. Et alors, est-ce que on n'a pas un certain nombre de cépages par ici, en Suisse ou à Genève, qui sont homologués, et puis d'autres qui vous condamneraient à faire, par exemple, du vin de table?
Alors, il n'y a aucune... ça, c'est un autre principe, c'est qu'il n'y a aucune... J'ai beaucoup de principes, décidément, ou des idées. Il n'y a aucune question qui est stupide, jamais. C'est plutôt le fait de ne pas poser de questions qui est idiot, à mon avis. Mais, alors, effectivement, il est vrai qu'il y a des régions où tout leur marketing, toute leur histoire repose sur un ou deux cépages. Vous avez pris l'exemple de la Bourgogne et c'est très juste. Le Pinot Noir étant un des cépages les plus anciens en France, il est encore bien heureux qu'il fasse des vins magnifiques avec après tant d'années, parce que ce serait un drame de se dire qu'ils persévèrent à cultiver quelque chose et qu'ils n'arrivent pas à le faire fleurir en flacon.
Soit dit entre parenthèses, les bourguignons, après une période un peu noire, me semblent être en relatif ou en être progrès. Fin de la parenthèse.
Donc, j'arrive pas à en juger parce que j'y vis pas. J'ai l'occasion d'en boire régulièrement. C'est souvent un plaisir, parfois ou souvent à des prix surfaits, mais ça c'est une autre histoire.
Une autre affaire.
Au niveau des cépages, je vous donne ma lecture de l'histoire de la vigne ou du vin. La vigne a progressé en Europe le long des autoroutes antiques, à savoir les fleuves, parce que c'était le moyen de transporter le plus facilement le résultat de la vigne. A posteriori, on se dit toujours qu'il y a eu des choix extrêmement judicieux, extrêmement précis. Moi, j'ai plus envie de dire que la vigne s'est implantée avec des paysans qui suivaient des logiques très simples, c'était d'obéir aux lois de la nature, à savoir qu'un cépage qui était trop gelé, il ne fallait pas être implanté dans le nord, etc. Et c'est entre autres pourquoi on retrouve beaucoup de chasselas, de gamay, de pinot noir dans nos régions, parce que ici plaît vraiment bien. Mais ça ne définit pas que c'est les seuls qui peuvent être cultivés, du tout, de mon point de vue. C'est simplement, il y a des raisons historiques, et puis on n'avait pas accès à autant de cépages hier qu'aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a des régions qui... La France, on est l'exemple le plus symptomatique. Il y a des régions qui sont... quasi toutes les régions sont extrêmement contraintes par les appellations et ont quasi pas de possibilité de planter autre chose, ce qui est bien dommage parce que dans certains cas, ça pourrait être magnifique. Après, dans mon cas, à Genève, j'ai pas vraiment... un impératif à me retrouver en appellation d'origine contrôlée, dans la mesure où les 65 cépages que j'ai, ne serait-ce que pour des raisons techniques, ils ne seront pas inscrits, homologués dans l'appellation d'origine contrôlée. Donc je serai en vin suisse, mais je pense que un domaine est porteur par son nom, par la personne qui l'accompagne, et puis que j'ai pas forcément besoin de ces appellations ou premier cru, etc.
Voilà, donc je déduis de votre exposé que nous sommes en somme au seuil d'une période extrêmement intéressante, et ce que vous dites semble nous promettre vraiment beaucoup de découvertes. Après la pause, nous allons donc évoquer quelques-uns de ces cépages, histoire de vous faire envie.
Radio Cité Genève,
92.2 FM.
Vous êtes toujours sur Radio Cité et présentement, donc Aristide est en train de recueillir les connaissances et les expériences de Raphaël Pieux, qui est vigneron à Hermance, au domaine des Divins. Voilà. Nous avons parlé de cette large palette qui s'ouvre avec une bonne soixantaine de cépages. Et alors, l'affaire est maintenant d'essayer de les présenter, de dire quel est leur charme, quelles sont leurs caractéristiques, peut-être leur durée de garde, etc. Alors, je ne sais pas, par exemple, on commencerait par le Doral.
Alors, le Doral, c'est une variété qui a été obtenue par Changin, un peu dans le même groupe, la même lancée que les Gamarais, Garanois, Mara. Donc, c'est plutôt fin du XXe siècle, les années 90.
Donc, c'est un cépage d'ici, d'une façon.
Voilà, c'est un cépage d'ici.
Sur mesure pour notre contrée.
Oui, à la base, le Gamarais, le Garanois ou le Doral, ou le Charmon, qui est le frère ou la sœur du Doral, ont été imaginés plus comme cépages améliorateurs, on dit, mais parce que encore maintenant le vignoble suisse romand principalement est constitué en majorité de chasselas, de gamay et de pinot noir, et à la base le gamarais ou le doral ont été imaginés pour en ramener un faible pourcentage dans les cuvées de chasselas pour lui donner plus de corps, plus de gras, parce que c'est un cépage qui est un petit peu plus riche.
Que le chasselas. Voilà, c'est ça, parce que j'ai cru comprendre, ou je crois me souvenir, qu'il y a du chardonnay, que c'est un mariage entre
voilà. C'est ça, c'est un croisement.
Je ne sais pas s'il faut se méfier des croisements, parce que peut-être qu'un jour, on nous fera un croisement entre la pomme de terre et l'orange. Est-ce que vous n'aimez pas mieux garder les cépages dans leur identité?
Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le gamay, il est issu du mariage naturel entre un cépage qui s'appelle le Gouet et le Pinot Noir. C'est un enfant du Pinot Noir. Le Cabernet Sauvignon est un enfant du Cabernet Franc. Il y a eu des cépages originels comme ça, mais ils ont eu beaucoup de mutations naturelles où ils ont enfanté également beaucoup. Donc, n'étant pas plus royaliste que le roi, je me garderais bien de rester que avec des patriarches et de complètement bafouer le potentiel des enfants.
Voilà, donc après le Doral, un autre cépage qui vous tiendrait à cœur?
Alors, un que je trouve particulièrement intéressant dans le fait de l'apprivoiser, c'est deux enfants du Pinot Noir, qui sont le Pyrozo et le Pinotin. C'est deux cépages qui présentent vraiment une belle adaptation au niveau du terrain, qui poussent bien, qui fleurissent correctement et qui sont assez précoces. Et au niveau de la cave, jusque-là, ça se passe aussi très bien. Ce qu'il faut bien s'imaginer, c'est que tous les cépages résistants ou tolérants aux maladies qu'on peut trouver ici ou ailleurs, ça va être systématiquement un des deux parents sera européen, c'est-à-dire tous les cépages qu'on connaît, que ce soit la Syrah, Pinot Noir, Merlot, Gamaret, et l'autre parent sera issu d'une espèce de vigne sauvage, où elle peut être asiatique, russe, américaine. Et la particularité de ces vignes américaines, asiatiques, c'est qu'elles ont toujours vécu avec ces champignons, et de ce fait, elles ont développé naturellement des résistances par rapport à celui-ci. Il faut aussi garder à l'esprit que la vigne, jusqu'au 19e siècle, en Europe, n'était pas traitée. Elle n'était pas greffée non plus. C'est lors d'échanges de matériaux végétaux avec le Nouveau Monde que, de la même manière qu'on a amené aux natifs américains tout un tas de maladies auxquelles ils n'étaient pas habitués, les biologistes, en ramenant des pieds de vigne américains, ont aussi ramené les maladies, les spores qui allaient avec. Et c'est ce qui a dévasté, entre autres, le vignoble européen durant le 19e siècle.
Voilà, ça c'était le phylloxéra.
Ouais, phylloxéra, voilà. Mais mildiouoïdium également.
Voilà. On constate, j'ai pas besoin de m'y étendre, que sur la planète actuellement, il y a une nouvelle maladie qui sévit et qui fait beaucoup parler d'elle sous forme d'épidémie. Est-ce que vous constatez dans vos vignes des maladies nouvelles?
Alors, pas pour le moment. Il y a, depuis deux décennies, on parle passablement de la flavescence dorée dont le vecteur est une cicadelle, où il y a eu quelques foyers, sauf erreur, en Romandie, mais qui ont pu être contrés. C'est une maladie qui est beaucoup plus présente en Italie ou dans le sud de la France. C'est pas un élément vraiment nouveau. On a c'était qu'en 2016 ou 2017, il y avait eu ce problème avec la mouche Suzuki aussi, qui perçait la peau du raisin et du coup les bactéries acétiques se développaient. Mais je pense des nouvelles maladies d'une certaine manière avec la mondialisation dans laquelle on vit, on y sera confronté et on y est confronté. Par chance, jusqu'à maintenant, il y a une structure en Suisse, une communication même à l'international qui permet d'endiguer un peu ces mouvements de maladies.
Voilà, donc vous êtes toujours sur le qui-vive. Peut-être encore un cépage qui vous tient à cœur? Un blanc, peut-être?
Un blanc, ouais, je dirais un cabernet blanc, tiens. Un cabernet blanc qui est vraiment un très joli cépage sur la minéralité et que je vais sans doute accompagner sur des élevages plus longs en barrique à l'avenir. J'attends un peu qu'ils prennent du corps et de la profondeur avec son enracinement, parce qu'il y a toujours cette idée que plus les racines vont dans le sol, plus il y a une expression de terroir aussi. C'est ce qu'il y a de magnifique avec la vigne, c'est que le sang de la vigne traduit la nature de la terre, et c'est quelque chose de je trouve assez exceptionnel, qui est peut-être moins évident avec des salades, par exemple.
Quoique, sait-on jamais, voilà. on ne va pas s'étendre sur cette soixantaine de cépages, mais il y a encore une petite question qui me turlupine à ce sujet. Vous m'avez parlé de cépages que j'ai envie de découvrir à titre individuel. Est-ce que vous les présentez comme tels, en monocépage, dans vos bouteilles, ou bien est-ce que ils seraient noyés dans des assemblages et on risquerait de ne pas capter leur identité ?
Alors, dans un premier temps, et surtout pour des raisons de quantité, parce que de manière générale, il y a 200 à 300 mètres carrés par cépage, donc potentiellement peut-être 150 litres ou 200 litres. Mais ça, c'est en pleine production. Les vignes sont encore jeunes, donc dans certains cas, on est largement en dessous de ces quantités-là. Donc dans un premier temps, je les assemble. Et la perspective, c'est que dès qu'ils seront en pleine production, il y en aura une vingtaine par année qui changeront chaque année en monocépage. Et à côté de ça, j'aurai toujours une vingt-trentaine, je dirais, de monocépages par année. Et à côté de ça, j'aurai toujours ma vingtaine de cuvées classiques.
Est-ce que vous arrivez à détecter la valeur de ces cépages pour le vin simplement en goûtant le raisin, de la pressentir, disons?
Alors, dans certains cas, je dirais oui, mais après, on peut être très agréablement surpris. Il y a certains cépages que j'ai sous-estimés à la vigne, parce que pour définir une date de récolte, c'est principalement, on le fait principalement de manière gustative. On mesure un peu les sucres, mais sinon, moi, j'aime beaucoup définir une date en fonction du goût. Et il y a parfois des cépages peu expressif aromatiquement de prime abord, qui une fois en fermentation déclenche des familles aromatiques assez fascinantes.
Voilà, donc finalement vous avez choisi des options qui rendent votre métier tout à fait passionnant. Je pense qu'il y a certains vignerons qui privilégient le Gamay, le Chardonnay, le Chasselas, etc. Enfin, les pinots qu'on connaît depuis toujours et qu'on aime, mais qui n'ont pas tellement de surprises. Donc, il me semble que dans votre métier, vous allez de découverte en découverte. On fait de nouveau une petite pause ?
Radio Cité Genève,
92.2 FM.
Chers amis, vous êtes toujours sur Radio Cité. Nous sommes toujours en présence de Raphaël Pieux, un vigneron que je peux qualifier d'original, qui se trouve donc à Hermans. Est-ce que vous sautez au plafond si on vous qualifie d'original ?
Non, ça me paraît plutôt un compliment. J'ose espérer qu'on l'ait tous, qu'on l'ait toutes et tous.
Voilà, donc vous êtes passablement à cheval entre musique et vin. Vous venez d'énumérer quelques-uns de vos cépages. En somme, quand vous les assemblez, est-ce que c'est pour vous, comme en musique, un accord que vous trouvez ?
C'est ça l'idée. C'est vraiment ça l'idée. C'est que j'ai pas joué du triangle, j'ai joué de l'accordéon parce que j'adore les possibilités qu'offre cet instrument, son nombre de touches, et je me retrouve dans le même esprit de composition à la cave, c'est que justement c'est de trouver parfois des accords vraiment qui sonnent à mon oreille de manière plaisante, et de ce fait c'est quelque chose que j'essaye de reproduire d'année en année. Et il est vrai que parfois des cépages ne présentent pas d'incroyables caractéristiques gustatives en monocépage, mais peuvent vraiment présenter une forme de compagnon idéal pour un assemblage.
Voilà, donc par exemple la basse continue, voilà, des choses comme ça. Très bien. Une autre question que je me pose, est-ce que les gens qui sont quand même curieux, on vit dans un monde qui prise follement la nouveauté, est-ce que les gens, comme clients potentiels, sont passionnés par ces nouveaux cépages ? Est-ce que c'est la ruée sur les nouveaux cépages ?
Alors, bon, je pense qu'il y a, en tout cas dans tous les gens que j'ai l'occasion de côtoyer, j'ai toujours cultivé un lien avec eux qui est avant tout gustatif. C'est ce qu'ils aiment. Et j'encourage ça chez tous mes clients, c'est de respecter ce qu'ils aiment, d'arrêter de boire des étiquettes, mais de boire du vin, et de respecter le fait qu'on peut ne pas aimer quelque chose qui est supposé être exceptionnel et être fasciné par quelque chose qui est supposé l'être moins.
Oui, je vous pose cette question parce que dans le vignoble genevois, ce qu'on a observé sur 40 ans, c'est la diversification. Autrefois, justement, il y a 40 ou 50 ans, il y avait peut-être une dizaine de cépages, mais guère plus. Et maintenant, il y a un vent de recherche, un vent de curiosité. Ces vins, j'ai cru comprendre, enfin, je peux supposer qu'on se les arrache au vu de leur originalité. Et n'est-ce pas vous qui choisissez un peu vos clients et restaurants ?
Alors, toutes les collaborations que j'ai la chance d'avoir, c'est toutes des collaborations qui sont faites très naturellement. C'est soit des lieux dans lesquels j'aimais aller boire un verre ou manger, où je me suis toujours senti bien accueilli. Et est arrivé un jour où soit le gérant ou le patron ou la patronne m'ont dit « Mais écoute, Raph, en fait, tu fais du vin, viens, enfin, fais-nous déguster des trucs. » Ou moi-même, je leur proposais ou je leur offrais une bouteille en passant. Et c'est du coup, les amitiés sont pas vraiment dissociées de cette aventure commerciale.
Voilà, c'est ça. Donc j'aime bien une telle affirmation parce que elle redit que, en somme, le vin est partage. Et je pense que les gens qui viennent chez vous sont intéressés par votre recherche en tant que telle. Avant de rendre l'antenne au studio, comme on dit, j'aimerais encore vous poser la question de vos étiquettes. Vos étiquettes sont particulières, je pense qu'elles plaisent beaucoup. Vous pouvez nous en parler, dire qui en est l'auteur ?
Alors, c'est une auteure, c'est une illustratrice genevoise qui s'appelle Sylvie Vibault et que j'ai rencontrée par des amis, par la musique à l'époque, et j'ai toujours adoré ce qu'elle faisait d'un point de vue graphique et artistique. Et du coup, c'est vraiment quelqu'un que je remercie profondément parce qu'elle a... Elle a permis de donner un visage à mes vins et puis de trouver une identité aussi singulière dans le design d'un domaine, c'est relativement rare. Donc je suis très très heureux de cette collaboration et je lui remercie.
Voilà, donc ça nous permet d'élargir un petit peu du domaine du vin au domaine aussi artistique de la musique, encore au domaine pictural. Donc finalement, vous êtes un personnage de culture.
C'est un beau compliment, c'est à vous de me le dire, mais j'ose espérer œuvrer en ce sens. C'est que je considère la terre effectivement comme une culture et comme un art, et que j'espère beaucoup faire fleurir ce patrimoine.
Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Raphaël Pieuse, de nous avoir initié, en somme, à l'omniprésente culture. Au revoir, chers amis auditeurs.